Voilà, je vous invite à reprendre vos places respectives, donc que nous puissions continuer le culte. Voilà, je vous invite à ouvrir vos Bibles si vous les avez. C'est vrai que maintenant, il y en a beaucoup qui prennent leur téléphone, mais c'est la Bible qu'ils prennent. C'est pas pour appeler quelqu'un. Ah, voilà, le Seigneur. Ah, il faut s'y faire, hein, les nouvelles technologies, ça se diffuse. Voilà, je vous invite à la prière afin que nous puissions soumettre ce temps entre les mains de Dieu pour qu'il nous parle. Seigneur, nous invitons vraiment ton esprit à venir, Seigneur, dans ce temps où ta parole va être annoncée, qu'elle puisse, Seigneur, nous conduire plus loin dans l'édification de notre être spirituel, mais aussi notre être tout entier. Tu as des choses à nous dire ce matin et nous voulons être à l'écoute. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Je vous invite à ouvrir le livre des Hébreux, si vous l'avez sous la main. Et on va lire quelques versets, tout d'abord dans Hébreux 1, et ensuite dans le chapitre 2 des Hébreux. L'auteur de ce livre est inconnu, on l'attribue à Paul, hein. Mais a priori on ne sait pas très bien qui l'a écrit, peu importe, mais c'est une épître qui éclaire beaucoup, en particulier le passage de l'Ancienne à la Nouvelle Alliance, et l'Ancienne Alliance est éclairée par ce que Jésus a fait, et elle est très très importante, et nous allons lire au chapitre 1er l'introduction de cette épître. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parler à nos pères, par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils, en ces jours-ci, qui sont les derniers. » Donc vous voyez, quand on parle des derniers jours, ça commence avec la venue de Jésus. Donc c'est pas forcément le siècle qu'on vit. C'est les premiers chrétiens ont commencé déjà à vivre les derniers jours. C'est pour ça que on peut pas limiter dans une centaine d'années. Cette période de temps. Donc, il l'a établi, donc Dieu a établi Jésus, héritier de toutes choses. Vous savez ce que c'est qu'un héritier? Il y a des héritiers ici parmi nous? Levez la main. Ben, tous, vous êtes héritiers. Hein? Si vous avez une famille, vous êtes héritiers. Hein? Dieu a établi héritier Jésus de toutes choses. Voyez-vous, donc c'est l'héritier le plus riche qu'on puisse imaginer, parce que Dieu l'a rendu héritier. Et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Donc toute la création, tous les mondes, tous les univers, tout ce que Dieu a pu créer, il a créé par Jésus. Amen. C'est très très important parce que en fait c'est lui qui est le chef, la tête. Hein, le chef c'est la tête de toute chose. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire. Donc quand nous adorons le Fils, quand nous regardons au Fils, à Jésus, nous voyons le rayonnement de Dieu. Le rayonnement de sa gloire est l'expression de son être. Donc Jésus, c'est l'expression de qui est Dieu. Dieu s'est révélé à Moïse en disant « Je suis celui qui est, hein, celui qui suit ». Et l'expression de l'être de Dieu, nous le voyons en Jésus. C'est pour ça en Jésus, nous avons tout. Nous voyons Dieu dans toute sa gloire. Et ce Fils soutient toute chose par sa parole puissante. C'est pour ça que la parole de Dieu est tellement importante, parce qu'elle soutient. C'est un peu comme des colonnes. Si vous voulez qu'une maison soit soutenue, il faut des colonnes hein, très très solides. Tout ce que vous construisez au-dessus, ça dépend des fondations, des colonnes. Et la parole de Dieu est une colonne. Et si nous sommes appuyés sur la parole, eh bien notre vie va être assurée, va être solide. Si nous appuyons sur nos propres paroles, bon, c'est nous qui en prenons la responsabilité. Si nous appuyons sur la parole de quelqu'un d'autre, là aussi, à chaque fois, nous défaillons. Hein. Mais si nous appuyons sur la parole de Dieu, eh bien, nous sommes sur une colonne solide. Hein. Donc, parce que ce Fils soutient toute chose par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de Dieu, de la majesté divine, dans les lieux très hauts. Donc Jésus s'est assis à la droite de Dieu. La droite signifie l'action, hein, signifie que c'est quand on fait une action, hein, c'est à la droite. Donc Dieu agit au travers de son Fils. Hein. Il envoie son Fils, il l'envoie pour sauver l'humanité, il l'envoie pour défendre les chrétiens, il l'envoie. Enfin, il est assis à la droite de Dieu, donc il agit en notre faveur. Devenu, verset 4, d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Ce verset, on va l'utiliser dans les dimanches qui viennent. C'est un fondement pour bien comprendre ce que Dieu va nous apprendre dans les dimanches qui suivent. Et on va sauter au chapitre 2, au verset 1 à 4. C'est pourquoi, quand la parole de Dieu commence par « c'est pourquoi », ça veut dire que tout ce qui précède est important. Il faut bien comprendre ce qui précède, puisque ça conduit maintenant à expliquer pourquoi nous faisons cela, pourquoi c'est enseigné. Vous voyez, donc il y a tout un ensemble de choses à comprendre, pourquoi Dieu fait les choses. Dieu nous prend pour des êtres intelligents, il nous explique les choses. Et c'est important de savoir expliquer les choses, pourquoi c'est écrit dans la parole. Donc c'est pourquoi nous devons prêter une vive attention à ce que nous avons entendu, de peur d'aller à la dérive. Hein? Vous savez, en tant que chrétiens, nous sommes sauvés, Dieu nous aime, il nous aide à marcher, mais il y a un danger d'aller à la dérive. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut pas que notre barque aille tout droit. Hein? Il veut nous emmener à un autre port, il veut nous amener à une autre destination. Hein? C'est l'ennemi de nos âmes. Donc, il y a quelqu'un qui veille sur nous, c'est Dieu, mais il y en a un autre qui veille aussi pour que nous n'allions pas dans la bonne direction. Hein, et plusieurs fois, on entend des témoignages de personnes qui se sont converties, même pris le baptême, et puis hop, ils sont partis à la dérive, ils reviennent, tant mieux. Mais parfois, il y en a qui reviennent plus. Et là, c'est très très grave. Donc, il y a un danger d'aller à la dérive. Et la parole de Dieu doit nous ramener dans la bonne direction. C'est pourquoi, alors verset 2, « Car si la parole prononcée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut ?» Si nous négligeons un si grand salut. Voyez-vous, c'est formidable quand on entend des personnes donner leur témoignage de baptême. Hein, ils découvrent la beauté du salut. Mais qu'en est-il après? Est-ce qu'après votre baptême, vous ne négligez pas ce salut? Voyez-vous, parce qu'ensuite, après, on va avoir tendance à l'échanger avec d'autres saluts. Si nous ne comprenons pas la grandeur du salut que nous avons, l'héritage que nous avons, si nous n'arrivons pas à saisir vraiment la grandeur, la dimension de ce salut, eh bien nous pouvons avoir tendance, hein, par le jeu de la séduction, eh bien à échanger ce salut contre des ersatz, comme on dit, contre des placebos, des choses qui sont vides, et faisons attention. Hein, et c'est l'objet de ce que je vais prêcher ce matin et dans les semaines qui viennent. Donc ne négligeons pas ces grands saluts. Ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, des miracles variés, par des communications du Saint-Esprit selon sa volonté. Voyez-vous, Dieu a pris soin de rendre témoignage à ce salut en Jésus-Christ. Non pas simplement en donnant Jésus, mais en plus en donnant tous les témoignages qui sont appuyés, les témoignages des apôtres, qui ont vu Jésus. 400 frères à la fois l'ont vu. Est-ce qu'au niveau d'un tribunal, ça c'est parfois on accepte juste deux ou trois témoins, ces 400 frères ont vu Jésus ressuscité après sa résurrection, ils l'ont vu vivant. Et bien d'autres témoignages de signes, de prodiges, de miracles, par des communications du Saint-Esprit. Et aujourd'hui encore, Dieu parle. Amen. Alors ne négligeons pas un si grand salut. Il est parlé de désobéissance, au verset 2. Si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution. Vous savez, Dieu, il est juste. Dieu est amour, Dieu est justice. Et nous, en France, on aime bien la justice. Et tous les humains aiment la justice. S'il y a une injustice, c'est intolérable. Et Dieu est juste. Et s'il y a une désobéissance à sa parole, eh bien, il y a aussi une rétribution à cette désobéissance. Et nous devons faire attention. Si nous désobéissons, il ne faut pas en vouloir à Dieu. Dieu nous a déjà donné ses commandements. Dieu a donné ses lois. Dieu a donné ses limites. Dieu nous a donné sa parole, qui est le fondement de toute chose. Alors, cherchons bien à suivre la parole de Dieu, à bien nous renseigner sur ce qu'elle dit, ce qu'elle représente. Et si parfois eh bien il y a quelque chose qui ne va pas, ben retournons à la parole, mais ne cherchons pas à blâmer Dieu pour cela. Ça, c'est un danger que nous avons. C'est pour ça aussi nous devons être instruits dans la parole. Il faut savoir que le salut dont il est question, nous pouvons le négliger si nous n'obéissons pas. Si nous voulons chercher à le comprendre, nous ne pourrons pas le comprendre. Même les anges ne peuvent pas sonder ce salut en Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas le comprendre. Pourquoi ? Parce que, par nature, le salut qui nous a donné en Jésus-Christ ne vient pas de nous-mêmes. Et on ne peut pas, il ne vient pas du cœur de l'homme. Il vient du cœur de Dieu. Ce qui est du cœur de l'homme est quelque chose qui est différent. Si je peux vous faire un petit schéma, le salut de Dieu, il se traduit dans l'histoire. L'histoire de l'homme, Adam, qui est à l'origine de l'humanité. Nous avons été créés dans l'espace et le temps fini. Donc, à un moment donné, ça commence. Dieu crée l'homme. Il n'existait pas avant, mais il existe dans l'imagination de Dieu, d'une créature. Donc, il crée l'homme parfait, Adam et Ève, le couple. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme, il a chuté, il a désobéi. Donc on a un être parfait qui a chuté, et donc Dieu voit cela et il cherche à le restaurer. Donc il entame un plan de rédemption, un plan de rachat, un plan de restauration, un plan de rétablissement de ce qu'il avait fait, qui était gâché par la volonté de Dieu, la volonté de l'homme, qui a été séduit par Satan. Donc à un moment donné, dans l'histoire, donc il annonce, Dieu annonce dans l'histoire qu'il va faire quelque chose. Mais c'est quelque chose qui est un mystère, c'est-à-dire quelque chose que l'homme ne comprend pas. La preuve en est, quand Jésus arrive, à part les personnes qui sont dans l'adoration, qui sont en relation avec Dieu, dans l'attente de Dieu, eh bien, à un moment donné, ils voient en Jésus ce Messie qui est annoncé. Mais c'est par l'Esprit qu'ils le sentent, qu'ils le voient. Parce que cet homme qui est Jésus, eh bien, il n'a rien de différent des autres humains. Il vient dans une étable, il vient comme un être humain, etc. Et ça, c'est quelque chose que l'homme n'attend pas. Enfin, qui vient pas du cœur de l'homme. Dans le cœur de l'homme, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est divin, tout ce qui est divinité, eh bien, il cherche quelque chose qui est supérieur à lui, quelque chose qui transcende, quelque chose qui est plus haut, quelque chose qui est lumineux. Vous voyez, il cherche tout ça. C'est ça le divin. Et dans toutes les religions, dans tous les systèmes religieux, c'est ça que l'homme cherche. Et c'est pour ça que quand Jésus est venu, on ne pouvait pas le reconnaître. C'est pour ça que le plan de Dieu est quelque chose que Dieu a conçu et que l'homme ne peut pas trouver par lui-même. Il ne peut pas le découvrir. Les mages de l'Orient l'ont découvert parce qu'ils ont suivi une étoile, ils cherchaient par l'astrologie qu'est-ce que c'est que ce phénomène, et ils ont trouvé un bébé. Et ils l'ont adoré, mais c'est parce que Dieu les a conduits à cette adoration. Voyez-vous, il faut que nous soyons conduits vers le salut pour le reconnaître. Et à un moment donné dans l'histoire, eh bien, il y a la croix. Et ça, c'est le centre, le centre de l'histoire humaine, c'est le centre de l'univers, c'est le centre de tout ce que Dieu a fait, c'est ce que nous avons lu dans Hébreu. Et l'histoire continue, donc elle s'inscrit dans l'histoire, et un jour, eh bien, Jésus va revenir, et il va rétablir l'Adam primitif dans sa... Donc, la chute va s'arrêter, et l'homme sera de nouveau parfait. Nous serons rétablis dans la perfection. Et vous voyez, on retrouve le cycle qui continue. Et c'est simplement une parenthèse. Cette parenthèse de l'histoire de la rédemption s'inscrit dans une histoire. Mais l'homme qui cherche Dieu par lui-même, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. L'homme qui cherche Dieu par lui-même, il est individualiste, il est là, et il cherche directement à atteindre Dieu. Vous voyez, c'est pas une histoire, c'est son histoire personnelle. Mais Dieu nous inscrit dans l'histoire communautaire, dans l'histoire d'un peuple. Nous sommes solidaires les uns des autres. Nous sommes dans une nuée de croyants, comme le dira l'apôtre dans Hébreux 11. Nous sommes environnés d'une nuée de chrétiens. Nous sommes un peuple. Mais dans la religion, dans la recherche du divin, c'est un individualisme qui fonctionne, c'est par une mystique que je veux atteindre Dieu, et donc par les œuvres, par ce que je fais. Mais là, c'est Dieu qui a tout fait dans le plan du salut. Ne négligeons pas un si grand salut. Amen. Je vous avais dit la dernière fois, donc à propos de l'obéissance, puisqu'on est dans le thème de l'obéissance, que l'obéissance est avant tout un enjeu spirituel. Et vous, dans la religion, on pense que bon, l'obéissance, il faut faire ça, il faut pas faire ça. Bon, on aime bien ça, d'obéir à des règles, à des choses comme ça. Donc les prêtres, enfin tous ceux qui sont dans la religion, les ministres du culte, ils établissent avec l'ancienneté des choses qu'il faut faire, qu'il faut pas faire, et on reste. Et ça, c'est très humain. C'est pas du tout l'enjeu de la Bible. L'enjeu de la Bible, c'est un enjeu spirituel. Si Dieu nous dit d'obéir, c'est-à-dire de manger de l'arbre de la vie et de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est pas parce que c'est une règle comme ça qui est établie et si on y obéit, eh bien, on reçoit un bon point et tout. Non. C'est parce que Dieu sait que si nous nous laissons aller à manger de l'arbre de la connaissance, nous allons mourir. Nous allons nous éloigner de Dieu. Nous allons perdre le bonheur. Nous allons perdre la joie. Nous allons perdre, eh bien, ce que nous avons de plus précieux. Donc c'est par amour que Dieu nous dit d'obéir. Et c'est pas par devoir d'obéissance, voyez? Vous voyez la différence entre la religion et la relation avec Dieu? Dieu nous aime, il sait que nous sommes intelligents, nous pouvons comprendre les choses, et nous devons obéir pour notre bien, pour que nous soyons préservés, eh bien, de la chute. Alors, j'ai été amené par le Saint-Esprit à vous parler de cet exemple que McClure nous avait cité quand il voyait au bout de 2-3 jours tous les pasteurs français qui étaient incrédules par rapport à cet enjeu spirituel de l'obéissance. Et donc il nous avait parlé de cet homme qui s'est transformé en araignée à Los Angeles, ce qui était là sans rappel. Et à la fin du culte, on m'a dit « Ah, oh, t'aurais pas dû dire ça, parce que les gens étaient un peu choqués, bouleversés, tout ça, qui s'est transformé. » Alors, je vais vous dire une chose, c'est que moi, je vous ai dit comme on me l'a raconté. Je peux pas vous dire autre chose. Je sais pas de transformer. Moi, je l'ai pas vécu. C'est Pasteur McClure et puis d'autres avec lui qui ont vécu cette expérience. Et il nous a dit, cet homme s'est transformé. Alors, je vais vous donner un petit exemple quand même parce que j'ai vu que vous-même, enfin, ceux qui m'ont fait la réflexion, vous êtes sceptiques aussi, comme ces pasteurs français. Nous sommes français. Nous sommes occidentaux, nous sommes habitués à la rationalité. Or, je vous dis que l'obéissance, c'est un enjeu spirituel, c'est pas un enjeu rationnel. Et donc, c'est important de revenir là-dessus pour vous dire, d'une part, parce que moi, je vais être fidèle à l'histoire qui a été racontée, et je sais pas si c'est transformé en véritable araignée ou s'il a simplement pris la posture de l'araignée. J'en sais rien. Mais, étant donné que j'ai affaire à des gens sceptiques, par nature, parce que rationnel, parce que dans les écoles, on vous explique pas ça. Il y en a qui, dans les écoles laïques, vous expliquent qu'on peut se transformer en animal et tout ça. Non. Et pourtant, ça existe. Alors, j'aimerais prendre la sœur qui vient du Gabon. Tu peux venir juste une petite seconde? Si t'es pas trop timide, Possible? Je connais pas trop le Gabon, hein, mais je crois savoir que Louis Schweitzer était au Gabon, c'est ça?
L'Embaréné. Oui. Il y a même un hôpital qui porte son nom. Donc, ouais, il a soigné beaucoup de maladies. Non, la France est quand même plus grande, je pense. Ouais. On va dire moins d'1 500 000. Ouais. Avec pas mal de richesses et 9 provinces. Donc, parmi les richesses, c'est le pétrole, le manganèse, l'uranium, le bois. Bah oui, je pense. La preuve, hein.
Votre
La
richesse
preuve.
est à la route.
C'est mitigé. Oui, au niveau du droit, c'est mitigé, hein. C'est pas. C'est mitigé. Ouais. Il y a beaucoup de. Enfin, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais vous avez une petite idée quand même. Ouais. Ouais.
Je voulais la faire venir parce que je vais vous parler du Gabon. Une petite histoire du Gabon. Tu peux te rasseoir, mais vous pouvez simplement, comme vous pouvez vous adresser à elle, si vous ne croyez pas ce que je vais dire, pour lui demander des détails. Voilà. Pour vous expliquer un peu ce que je vais vous dire, que l'obéissance est l'ordre spirituel, je vais vous lire quelque chose qui vient du Gabon. D'accord? C'est le tribunal correctionnel de Boué, au Gabon, du 22 avril 1964. Ok? C'est pas il y a 3 siècles, hein. Alors, au lieu de vous raconter l'histoire, je vous lis le compte-rendu du tribunal. D'accord? Alors, tenez-vous bien. Donc, ça va éclairer un peu la remarque qu'on m'a fait, hein. Attendu que monsieur, alors je prononce peut-être mal, Biyéké, Étienne, a été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel de Créan pour la prévention d'avoir à Brilam, excusez-moi, district de Boué, le 13 septembre 1963, en tout cas depuis moins de 3 ans, par imprudence, maladresse, négligence, inattention ou inobservation des règlements, involontairement commis un homicide, donc un meurtre, sur la personne de Sieur Joseph Akoué. Attendu qu'il résulte des débats et du dossier sur Biyéké Étienne le 13 septembre 1963, s'est rendu à la chasse dans l'après-midi, que vers 16 heures, il entendit des cris de singes, qu'il se posta entre la grande forêt et les vieilles plantations d'où venaient ces cris, espérant que les singes allaient passer des vieilles plantations à la forêt. Que s'apercevant qu'ils s'éloignaient plus tôt de lui, Biyéké décida de les suivre. Quand, sous le feuillage, il vit venir à lui un chimpanzé, que celui-ci, s'approchant de plus en plus de lui, en hurlant, Biyéké se vit dans l'obligation de le charger à la tête d'un coup de feu, que le chimpanzé tomba et fit plutôt entendre un cri d'homme, qu'il se redressa en homme, et put encore faire plus de 1 000 mètres, donc 1 km, en forêt en courant. Quand Éloué Élisabeth, qui le rencontra, le prit par la main, que la victime s'affaissa et mourut sans rien dire, qu'appelés au secours, les villageois virent, reconnurent et transportèrent au village le corps d'Akoué Joseph. Attendu qu'à l'audience, le prévenu a soutenu qu'il voyait parfaitement clair, lorsqu'il avait fait partir le coup de feu, et qu'il avait bien identifié sa victime à un chimpanzé, qu'il ne chasse d'ailleurs pas pour la première fois, ayant déjà capturé 4 depuis qu'il chasse, attendu qu'un homicide involontaire n'est punissable que si c'est bien un homme qui était tué par maladresse, imprudence ou négligence, et dans le cas d'espèce Biyéké, a visé en plein jour et a tiré sur un chimpanzé et non sur un homme. Que si le chimpanzé est devenu homme, après le coup de feu, Biyéké ne peut plus être reconnu dans la prévention d'homicide involontaire. Attendu qu'il est de notoriété publique au Gabon, que les hommes se changent soit en panthère, en gorille, en éléphant, pour accomplir des exploits, éliminer les ennemis, ou attirer sur eux de lourdes responsabilités, défendre leurs plantations et ravager celles des voisins et des amis, que ce sont des faits qui sont inconnus du droit occidental et dont le juge gabonais doit tenir compte. Qu'il est en effet inconcevable à l'esprit européen qu'un homme puisse faire plus de 400 kilomètres en 27 heures à pied. 400 kilomètres, c'est d'ici à Lyon, je ne sais plus, en 27 heures à pied. Alors qu'un Bakoto et Makoku et Boué l'accomplissaient. Attendu qu'il n'est pas aussi de la commune mesure qu'un individu ayant reçu une charge de plomb dans la tête et après être tombé se relève et arrive encore à faire plus de 1000 mètres en forêt en courant et que tel a été le cas d'Akoué Joseph. Attendu qu'il faut encore faire savoir que les transformations des hommes en animaux féroces sont encore en vue de ne pas effrayer le gibier pour s'en saisir plus facilement. Attendu qu'Akoué Joseph, qui est parti en chasse sans armes, n'en avait donc pas besoin puisqu'il pouvait prendre du gibier autrement qu'avec une arme. Attendu qu'il faut punir les homicides involontaires de chasse, il y a lieu toutefois de considérer le cas et de s'éveiller contre ces pratiques magiques et sorcières qui peuplent le Gabon, surtout en matière des opérations en forêt et qui retardent énormément l'évolution de notre peuple. Attendu que le tribunal a l'entière conviction qu'Akoué Joseph s'est transformé en chimpanzé en forêt et qu'il aurait été en chasse sans armes et à l'insu de personne, que Biyeke, notable ancien combattant, largement décoré, plusieurs fois vainqueur des chimpanzés, ne pouvait pas tirer en plein jour sur un homme contre lequel il n'avait aucun antécédent défavorable, par ces motifs, déclarer Biyeke Étienne non coupable des faits qui lui sont reprochés. Voyez-vous, il y a des réalités qui nous échappent, et pourtant qui sont évidentes pour les Africains, je pense qu'il n'y a pas que le Gabon. C'est pas qu'on les approuve, c'est des fêtes. Il y en a qui croient à ces fêtes. C'est pour ça que j'ai demandé à la sœur de venir. C'est un pays quand même civilisé, c'est un tribunal. C'est pas un conte de fées, c'est pas des choses qu'on raconte sous la tente ou dans les cabanes. C'est un tribunal qui a dû légiférer en justice. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'histoire que je vous ai racontée, je ne veux pas rentrer dans le détail. Moi-même, j'ai vu des personnes prendre des formes de serpents, des formes de parce qu'ils étaient habités par des démons. J'ai jamais vu quelqu'un qui était devenu un serpent. Bon, mais moi, je suis pas le nombril du monde. J'ai pas toute l'expérience et je crois ceux qui l'ont vu. Donc tout cela est possible. Pourquoi? Alors, ne me demandez pas comment ça se passe. J'en sais rien. Je veux dire, je n'ai jamais fait de sorcellerie ou quoi que ce soit, donc je sais pas. Est-ce que c'est une image qui apparaît? Je ne sais pas, mais je veux dire, c'est dans le domaine des choses qui arrivent, qui sont réelles, qui se passent réellement, et qui sont utilisées par des gens qui veulent du pouvoir. Bon, là, c'est un pouvoir local pour défendre ses propriétés, etc. Bon, donc on utilise la magie et tout ça. Mais je vous dirais qu'à d'autres niveaux, c'est utilisé aussi pour diriger le monde. Mais là, n'est pas la question ce matin. Simplement pour dire que c'est d'ordre spirituel. C'est le spirituel qui commande le naturel. Voyez-vous, dans nos pays occidentaux, on est tellement habitué à ce qu'est le naturel, ce que je vois. Je crois ce que je vois, ce que ma raison peut comprendre. Je crois que ce qui est visible, or c'est aberrant ce qui est visible. Les chiens, ils entendent des sons que j'entends pas. Bon, pourtant c'est un chien. Dans le visible, je vois pas l'infrarouge ni l'ultraviolet, pourtant ça existe. On le sait, voyez-vous. Mais ceci étant, la rationalité occidentale fait que on ne croit que ce qu'on voit, ce qui est visible. Sachant qu'il y a d'autres choses, mais on veut l'ignorer dans la vie commune. Or, il est dit dans Hébreux que Dieu a aussi créé des anges. Allô? On n'est pas le nombril du monde, enfin de l'univers. On est une créature parmi d'autres. Dieu a créé des anges. Et les anges, est-ce qu'ils ont des corps? Non. Ceux qui ont fait de l'école du dimanche, là, si les grands ne savent pas. Est-ce qu'ils ont des corps visibles? Les anges? Non, mais ils peuvent, c'est autre chose, ça c'est la deuxième question. Mais non, c'est des esprits. Les esprits n'ont pas de corps, ok? Maintenant qu'ils le peuvent, c'est autre chose. Si Dieu leur donne la possibilité, ok, mais on est dans le domaine des fêtes. Les anges n'ont pas de corps, ils sont des esprits. Des esprits. Et le problème, et ça, la Bible nous l'enseigne, c'est qu'il y a des anges qui se sont rebellés. Et d'autres qui ne se sont pas rebellés. Donc, voyez-vous, on apprend des choses par la parole de Dieu. Et si on croit la parole, si on obéit la parole, on rentre dans une protection de notre vie. Si on outrepasse cette connaissance, soi-disant parce que tout un tas de raisons, eh bien on se met en danger, on est à la dérive. Et on reviendra dans les semaines qui viennent un peu là-dessus, pour vous faire comprendre qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. L'obéissance est d'abord spirituelle, c'est-à-dire que c'est Dieu qui sait des choses, parce qu'il est au-dessus de la création, et s'il nous avertit de certaines choses, de ne pas faire ou de faire, c'est parce qu'il veut nous accorder le bonheur, la protection, qu'on ne soit pas exposé inutilement à des combats auxquels on s'exposerait tout bêtement. L'obéissance est d'abord d'ordre spirituel. C'est là qu'on a le plus gros danger. Tout simplement parce que, vous savez, là aussi, avec certaines personnes religieuses, on n'est pas d'accord. Hein, on peut être d'accord sur un tas de choses, hein. Mais à un moment donné, j'avais le vicaire général, je mangeais avec le vicaire général du diocèse de Versailles, et c'est un homme très cultivé, il connaît le grec, l'hébreu, il va en Israël tout le temps et tout ça, enfin c'est un homme très très savant, très agréable. Et à un moment donné, pendant le repas, on parlait du mal. Le mal, qu'est-ce que c'est le mal, hein? Bon, pour moi, le mal, c'est Satan, hein, dans une personne, hein, qui a une intention malicieuse, le malin, hein, délivre-nous du mal ou délivre-nous du malin, hein. C'est une personne qui est contre Dieu, qui a décidé, hein, par l'orgueil, hein, de se placer sur le trône de Dieu. Donc c'est enfin moi je le crois parce que la parole de Dieu me le dit. Monsieur Thomas a dit non, moi je crois pas à ça. Vicaire général, diocèse, non, je crois pas à ça. Le mal, c'est un principe. C'est un principe. Vous savez, comme la loi de la gravité, c'est un principe, une loi. Bon, le mal, bon, faut faire avec. Bon, vous voyez, donc il faut le contourner, etc. Mais rien que ça, déjà, hein, ça change tout dans notre façon de nous conduire. Si c'est un principe, vous voyez, je laisse tomber, excuse-moi, il le dit. Voilà, hein, une fois, deux fois. Est-ce qu'il va tomber si je le lâche? Pourquoi? Parce que c'est un principe. Satan, est-ce que vous croyez qu'il fait toujours la même chose? Non, il fait pas toujours la même chose. Parce que et c'est un stratège, parce qu'il a une intelligence, parce qu'il réfléchit. Donc s'il veut séduire Élodie, il va y aller une fois, il voit que ça marche pas, il va y aller autrement, marche pas. Vous voyez, c'est ça. La différence entre le principe et une personne, c'est tout à fait différent. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas repérer ces choses. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, si nous voulons être plus malins, hein, que Dieu, nous sommes foutus. Parce que l'obéissance est spirituelle. Parce que les enjeux sont spirituels. Parce que l'ennemi est une personne, et il n'est pas tout seul en plus, il a toute une légion avec lui, donc et il donne des ordres, et puis tout ça, ça se met en route. Et nous ne pouvons pas nous en sortir si nous n'obéissons pas, parce que nous comprenons que nous ne pouvons pas être plus malins. Si c'était principe, oui. Hein, je vous expose un principe, et puis à partir de là, vous mettez en œuvre, vous protégez, vous avez tout ça. Bon, ça, c'est la rationalité, et l'homme aime bien. Et l'Occident est super dans la rationalité, hein, même de trop, parce que même en médecine, on sait maintenant que il n'y a plus que la façon de traiter en Occident qui existe, et donc on fait appel aux médecines chinoises, bouddhistes, etc. Bon, pourquoi? Parce que l'homme n'est pas que matière, hein, il a aussi une âme, un esprit, etc. Bon, mais tout ça, on le découvre maintenant, et on ne sait pas trop comment gérer ça. Peu importe. Ce qu'il faut, c'est savoir que Dieu est esprit, les anges sont esprits, et que l'enjeu est d'abord spirituel. Donc je vous ai illustrer ce propos pour dire que quand McClure voulait nous réveiller aux choses, et c'était à Los Angeles, c'était pas au Gabon, okay, et que cet homme effectivement a agi de la sorte pour tuer sa femme et ses enfants, et puis ensuite les pasteurs, mais bon, les pasteurs, ils ont pris autorité dans le nom de Jésus, et le combat a duré toute la nuit, mais ils l'ont fait parce que à chaque fois que cette araignée l'attaquait, il y avait une petite voix. Ils entendaient une petite voix qui disait « Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi ». Donc ils savaient que l'homme qui était l'arrière, qui était utilisé par ces puissances, eh bien, il était prêt à être aidé. Et donc ils ont continué. Sinon, ils ne vont pas continuer. Hein. On ne va pas s'exposer inutilement à ces puissances-là. Si vous avez une messe satanique, tout ça, vous vous exposez inutilement. Et on le fait que quand Dieu nous demande de le faire. Mais il savait que cet homme avait besoin d'aide. Il était prisonnier de ses puissances et il a dit aidez-moi. Et donc à chaque fois, quand il y avait des démons qui sortaient et des légions qui sont sorties de lui, eh bien à chaque fois il a pu effectivement prendre un souffle et jusqu'à le lendemain matin où la délivrance a été totale. Quand on va trop loin à la dérive, on peut plus revenir en arrière. Il faut une aide de l'extérieur. Et heureusement que cette aide est là pour nous aider à être délivrés. Ça a été le cas pour cet homme qui maintenant est un serviteur de Dieu. Je ferme la parenthèse pour dire que l'ordre de Dieu, quand Dieu donne un ordre, il le fait pas pour nous brimer. Il le fait pas simplement parce qu'il a une connaissance que nous n'avons pas. Et si nous obéissons à la voix, à la parole de Dieu, eh bien, nous sommes gardés, nous sommes protégés jusqu'à la fin du combat. Ne vous en faites pas, ça va pas durer éternellement. Ici, ça va s'arrêter. Ici, il est dit que Satan et tous ses démons seront enchaînés pour l'éternité. Donc, alléluia. Nous sommes simplement dans un combat actuellement qui est un combat spirituel. Tout d'abord, spirituel. Qui ensuite se transfère dans les autres niveaux de notre sphère psychique ou physique. Mais c'est d'abord un combat spirituel. Et il faut comprendre ce combat spirituel. Mais Lucifer, qui est le porteur de lumière, qui est Satan, il est adoré par l'homme parce que lui, il prétend apporter la lumière pour devenir Dieu. Et donc, il est dans ce circuit-là. Et l'homme, qui est très très friand des secrets, hein, on aime bien les secrets, hein, tout ce qui est caché, on aime bien savoir ce qu'il y a derrière, hein. On aime bien tirer le rideau hein, pour voir. Et ça, c'est la puissance d'Internet. Hein. Et il y a une petite fenêtre qui s'affiche. Ah, qu'est-ce qu'il y a derrière? Toc, je clique. Et paf, c'est fini. Vous voyez, c'est l'ennemi sait quels sont les trucs qui marchent. Hein. Oh, c'est pas méchant. Ok, c'est pas méchant. Mais qu'est-ce qu'il dit la parole? Hein. Et hop, vous voyez. Alors bon, une fois ça va, deux fois ça va, mais on peut s'en sortir. Mais au bout d'un certain temps, on est addicté, comme on appelle. Hein, on est, hop, vous voyez, hein, c'est comme l'ami d'Antoine qui dit, ah ben, si tu veux bien jouer de la musique, tu te saoules. Puis, bien sûr, bon, si tu te saoules, c'est bien, tu contrôles plus trop, tu peux faire improviser n'importe quoi, ça, bon, ok. Mais bon, tu te saoules deux fois, tu te saoules trois fois. Après, ça devient, ah, tu vois que tu as du succès, tout ça. Et vous, ça devient addictif. Et à un moment donné, vous pouvez plus en sortir. Parce que l'homme par lui-même pense s'en sortir. Mais il y a des ressorts qu'il ne connaît pas. Il y a des puissances qu'il ne connaît pas. Il y a des addictions qu'il ne connaît pas. Il y a des possibilités qu'il ne connaît pas. Donc, ce qu'il nous faut, c'est rester humble à notre niveau et obéir à ce que dit la parole. Et là, nous sommes protégés. Mais c'est trop simple, ça. C'est trop bébête. C'est trop... Or, mais pour les gens du monde qui ont un savoir, bon... Oh ben non, faut utiliser la raison, il faut utiliser un tas de choses. Hein? Mais oui, mais c'est l'indépendance. Parce que l'ennemi veut nous rendre indépendants, comme lui est indépendant. Il n'a pas besoin de Dieu. Et nous aussi. Récemment, j'étais à la commémoration du colloque de Poissy, là, la semaine passée, enfin une dizaine de jours maintenant. Et le colloque de Poissy, c'était une tentative ultime de vouloir réunir les catholiques et les protestants dans le royaume de France en 1651, donc il y a 450 ans, avant les guerres de religion. Et Catherine de Médicis et tous les gouvernants de l'époque ont réuni les protestants et les catholiques pour essayer de trouver un point d'entente pour éviter la guerre. Ça a été un échec. Pourquoi? Simplement parce que le premier jour du colloque, l'ouverture du colloque, ça n'a pas démarré sur un discours. Bon, j'aimerais bien que, en tant que roi de France ou régente en tout cas, vous puissiez vous unir, vous parler, etc. Enfin, bon, pour faire l'entente. Ça a commencé immédiatement par dire qu'est-ce que vous pensez de l'Eucharistie. Vous rendez compte, roi de France qui demande l'Eucharistie. Et oui, les enjeux sont spirituels. On ne peut pas se réconcilier sur l'Eucharistie, puisque ces deux notions, et tout le colloque était sur l'Eucharistie, sur la Sainte-Seine. Vous voyez, l'enjeu spirituel. Seulement parce que l'Église catholique, même aujourd'hui, elle est convaincue que c'est un repas sacrificiel. On sacrifie, enfin, on répète le sacrifice de Jésus à la messe. Bon, c'est un repas sacrificiel. Or, les réformateurs ont découvert que c'est un repas sacramentel. C'est-à-dire, c'est un sacrement. Jésus a institué un sacrement, une nouvelle alliance. Et on n'est plus dans le sacrifice de l'Ancien Testament. Or, la messe, c'est le sacrifice de l'Ancien Testament. C'est tout. On fait des sacrifices. Mais c'était pour annoncer la venue de Jésus. L'histoire fait que, ici, la loi et les prophètes ont annoncé qu'un jour, l'agneau qu'on sacrifie, il viendrait une fois pour toutes. Et quand vous prenez dans Hébreux, justement dans ce livre qui explique ce passage, Hébreux 9, verset 12, verset 26, chapitre 10, verset 9, chapitre 10, verset 12, j'ai pas le temps de les lire, donc vous pouvez les consulter chez vous. Hébreux chapitre 9, verset 12, parle une fois pour toutes. Hébreux 9, 26, une seule fois. Hébreux chapitre 10, verset 9, il établit le premier culte pour instaurer le deuxième culte. Hébreux chapitre 10, verset 12, un seul sacrifice. Voyez-vous, Jésus est venu culminer dans cette histoire de la rédemption par son sacrifice ultime. Et il n'est pas question de le renouveler, c'est un blasphème, c'est une aberration. Voyez-vous, puisque toute l'histoire, ici bien sûr, il y a des agneaux qui ont été sacrifiés en vue de cet agneau pascal qui doit venir, cet agneau final. Et à partir de là, eh bien, on est dans une nouvelle alliance, on est dans un autre type de culte, et ça c'est le culte du sacrement. Sacrement, sacrement, ça veut dire on respecte, c'est la mémoire de ce qui s'est passé ici, parce que Jésus est le centre de toute l'histoire. C'est un enjeu spirituel. Un enjeu spirituel. Bien sûr, ce colloque a échoué et il y a eu 30 ans de guerre de religion, malheureusement. L'apôtre Paul en parle au moment de la scène. Chapitre 10, la scène, chapitre 11, chapitre 10, chapitre 12, il en parle. L'apôtre Paul dit, ne communiquez pas avec les idoles, parce que derrière les idoles, il y a les démons. Il en parle simplement. Il dit, je veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Derrière les idoles. Or, un repas sacrificiel, hein, là, dans la Bible, c'est un sacrifice qui annonce Jésus. Mais jamais, 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 Dieu n'a demandé des sacrifices humains. Or, dans les cultes païens, c'est les sacrifices humains qui sont les plus puissants pour obtenir le pouvoir de Satan. Hein. Même François Mitterrand, il était dans des... Il participait à des sacrifices humains. Et ça, je l'ai de source sûre. Mais c'est pour dire que nous, nous sommes dans des considérations visibles. Mais l'obéissance va plus loin. C'est d'obéir à des choses que Dieu nous dit parce que il y a des choses invisibles qui dirigent les choses visibles. Et là, il faut être très attentif. Sinon, nous pouvons aller à la dérive. Et nous a donné à des idoles. Vous voyez, les idoles, c'est rien. Mais c'est les démons qui sont derrière, qui sont puissants et qui nous dirigent. Et être idolâtre, et aujourd'hui on peut être idolâtre simplement par la pensée, hein, eh bien, petit à petit, on part à la dérive parce qu'on perd le contrôle de soi-même. On perd la maîtrise de soi. On perd, et c'est toutes les qualités que l'apôtre Pierre va donner dans 1 Pierre 1. Il disait, ajoutez à votre foi la force de caractère, on l'a vu mercredi soir, hein, pour ceux qui veulent venir les mercredis, vous apprenez des choses. Apprenez la force de caractère, hein, c'est-à-dire la force d'âme, la vertu, hein, c'est marqué de la vertu. C'est-à-dire que c'est une collaboration, voyez-vous. Ce n'est pas de la magie. Hein. Ici, dans ce système mystique, c'est de la magie. Hein. Vous devenez Dieu, bon, par toutes sortes d'artifices. Ici, c'est une collaboration. Nous sommes dans l'histoire comme nos ancêtres, comme nos suivants, et là nous collaborons avec le Seigneur. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots. Dieu nous fait collaborer avec lui. Donc il y a une part de responsabilité. Est-ce que nous répondons à l'appel de Dieu? Est-ce que nous répondons au sens des responsabilités? Et ça c'est aussi une découverte de la réforme qui a responsabilisé le croyant. Il a dit, bon, c'est pas l'Église qui vous dicte tout, qui a des directeurs de conscience qui vous disent quoi faire, des dogmes et tout ça. Non. Vous, vous avez reçu le salut, soyez-en dignes. Vous avez reçu le salut, si vous avez compris que votre salut est l'ultime, le grand trésor de toute votre vie, eh bien prenez-en soin. Voyez-vous, cette responsabilité, Dieu nous rend responsables. Et nous sommes libres de répondre d'une manière ou d'une autre. Mais l'apôtre Pierre et tous les apôtres vont dire gardez-vous des idoles, gardez-vous des idoles, gardez-vous des idoles. Alors on dit, oui, c'est plus vrai, c'est le 21e siècle, il n'y a plus d'idoles. L'obéissance est avant tout un enjeu spirituel. Dans les premiers siècles, que ce soit Irénée de Lyon, Patrick, Martin, enfin tous ces grands hommes qui ont évangélisé les peuples européens, ils ont eu des combats spirituels avec les puissances. Martin de Tours va dire il a eu des combats énormes, mais le plus énorme, c'est avec Mercure. C'est celui qui est l'ange de la France, celui qui dirige la France. Il y a des choses, quand on sait, vous savez, ça nous ouvre les yeux sur le fait qu'aujourd'hui, comme dans le passé, on est lié à des puissances qui s'opposent, et en particulier à l'Église, et en particulier aux croyants. Dès que vous devenez chrétien, vous prenez le baptême, vous êtes la cible de l'ennemi, parce que son plus grand désir, c'est de vous faire renoncer à votre foi. Alors là, il jubile. Donc, si vous le savez, bien résistez à l'ennemi. Toutes vos forces. Parce que vous n'allez pas lui faire plaisir. Si vous vous laissez aller, vous allez lui faire plaisir. Vous allez faire son plaisir. Mais si vous voulez faire le plaisir de Dieu, eh bien, résistez. Résistez à toute forme de péché. Parce que là, vous remporterez la victoire. Vous deviendrez fort dans la foi. Vous deviendrez fort dans l'épreuve. Et l'épreuve, au lieu de vous rendre plus mou, ça va vous rendre plus fort. Et si vous voulez devenir fort, n'ayez pas peur de l'épreuve, parce que Satan fait une œuvre qui le trompe. Quand il vous attaque, si vous résistez, eh bien vous allez sortir plus fort qu'avant. Et vous allez pouvoir avoir de nouvelles responsabilités dans le royaume. Donc n'ayez pas peur d'épreuve. À chaque épreuve que je rencontre ou qu'on rencontre dans l'église, je dis à ma femme, c'est super de pouvoir monter une marche. C'est super. Et c'est le sens de ce qui est dit dans la parole de Dieu quand il est dit que entre le moment où Jésus est venu, il est mort, il est ressuscité, quelle est son activité à Jésus en particulier jusqu'à son retour pendant cette période-là? L'activité de Jésus. Notre activité, c'est d'être chrétien dans l'Église. Et une des activités, je ne veux pas dire toutes, mais quelle est une des activités de Jésus?
Il intercède.
Mais il y a une chose qui touche le message de ce matin, au niveau spirituel, c'est qu'il attend que Dieu, son Père, lui mette sous ses pieds les ennemis. Que les ennemis deviennent son marchepied. Voyez-vous, c'est spirituel, hein? Pas évident à comprendre, il faudrait tout un message pour aborder cette question, mais pour être bref, marchepied, ça veut dire que, hein, il y a un trône là, d'accord? Il y a un marchepied, hein? Tous les rois, ils ont des trônes qui sont élevés. Forcément, il y a des marchepieds. Bon, bah, Jésus, il attend que son Père lui donne ses ennemis, tous les ennemis, et c'est avant tout spirituel. Hein, bien sûr, l'homme participe au spirituel quand il pêche, mais ce sont tous les anges révoltés et tout ça. Il les met sous ses pieds. Alors, moi je suis affolé, mais je juge pas les chrétiens qui le font, parce que moi je l'ai fait. J'ai fait des bêtises comme ça. Qui disent, oh, je mets Satan sous mes pieds. Oh là là. Surtout, ne dites jamais ça. C'est pas à vous de mettre Satan sous votre pied. Alors là, vous êtes foutus. Qui êtes-vous par rapport à Satan? Mais les chrétiens qui font du combat spirituel comme ça, je vous le souhaite pas, parce que vous n'allez pas sortir entier là, dans ce genre de combat. Mais si vous dites merci Seigneur parce que toi, tu es en train de mettre mes ennemis, c'est pas Satan, parce que Satan sera la fin, mais tous les autres, les dominations, les puissances, les autorités, etc., sous mes pieds. Et tu es en train de mettre ces ennemis qui sont là sur Élisabethville sous nos pieds. Eh bien, nous sommes dans la bonne voie. Et le Seigneur, petit à petit, nous libère de ces puissances. Voyez-vous, ici, dans cette région, il y a tout plein de gens qui font de la voyance, qui, je les connais, enfin, on les a rencontrés, ils sont venus à l'église, bon, il y a eu des, donc, je vous dis, c'est des fêtes, hein. Des gens qui profitent de certaines énergies, d'astrologie et tout ça, pour trafiquer avec. À Paris, il y a plus de voyants que de médecins. C'est un fait, ok? Plus de voyants que de médecins. La ville lumière, ok? Et on est dans un pays rationnel. C'est un truc qui est rationnel. Donc, vous voyez que le spirituel, il n'est pas qu'en Afrique. Il est ici. Le spirituel est ici, en Europe. Sauf qu'il est caché. Parce que, bon, c'est un sujet tabou. Ok? Ceux qui connaissent les GER, qui ont habité à côté, là, ils sont maintenant retournés en Russie, leur bailleur, français rationnel, tout ça, ils venaient une fois par an pour voir si l'appartement était bien et tout ça, et puis Laurence qui parlait, tout ça, il dit, oh, me parlez pas de Dieu, hein. non, je suis athée. Puis un jour, il avait son enfant malade, puis il l'a amené chez un rebouteux. Alors Laurence a dit, l'a amené chez le rebouteux? Vous vous rendez compte, les puissances qu'il y a derrière. Ah, je veux pas savoir, du moins que ça marche. Vous voyez la rationalité du français? Du moins que ça marche. Comme si le fait que ça marche, c'est un critère d'objectivité. Hein. Mais c'est là, quand on veut se croire supérieur à la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, ne touchez pas à ça. Si quelqu'un dans la salle s'est simplement fait lire la main par quelqu'un, repentez-vous, demandez pardon. Simplement ça, c'est le début. C'est une accroche. Bon, c'est pas ça qui veut perdre votre salut. Mais faites attention, le spirituel commande le naturel. Parce que c'est quelque chose qui vous domine, votre psychisme, votre spirituel, votre pensée et tout ça. Et vous ne voyez pas, parce que ça ne se voit pas. C'est pas comme du physique. Mais ça vous accroche et ça vous entraîne plus loin. Et donc il faut être attentif. Et nous allons d'ailleurs faire ça... Dans une semaine, la repentance dans l'église, on le fait une fois par an, pour que le Seigneur nous aide à nous repentir de toutes les choses qui pourraient être accrochées à nous en tant qu'église, pour que nous puissions aller une marche plus loin cette année, dans cette ville. Amen. Est-ce que vous voulez voir des gens sauvés? Vous voulez voir des gens libérés? Eh bien, ça dépend de notre combat à nous, de notre repentance à nous, de notre acuité visuel, spirituel. Hein. Si nous sommes naïfs, nous n'y arriverons pas. Moi, j'ai entendu au colloque de Poissy des gens fort intelligents, je n'arrive pas à leur cheville, des philosophes, des gens qui ont parlé à cette table du colloque, et qui étaient laïcs, républicains. Moi, j'ai dit, mais quelle naïveté. Ils croient à des choses, des contes de fées, hein, comme l'idée de Rousseau. Rousseau, notre grand philosophe Rousseau, qui a dit « l'homme n'est bon ». Ok, bon, c'est très gentil de dire ça, mais quelle est la réalité derrière? Alors que la Bible dit non. L'homme, il y a du mal dans l'homme, à cause du péché. Voyez-vous, donc quand on part d'une idée préconçue, d'un préjugé, on le juge soi-même, et on le valide, on est foutu. Donc ils partent de l'idée que l'homme est bon. Ils disent « oui, c'est quoi ce procès ?» Des Européens croyants qui veulent parler de la tradition chrétienne en Europe. Bon. Et tout simplement, dans la Constitution, on voulait dire que l'Europe était chrétienne. Bon. So what? Ah non. L'Europe est héritière des Lumières. C'est ça qui a été marqué. Giscard a présidé la Constitution et les Français l'ont rejeté. Bon. Il a dit, mais non, les valeurs laïques, il y a des valeurs. Alors c'est quoi? C'est le savoir, voilà. Le savoir. Quand l'homme sait, il va à l'école et sait, il sait porter un jugement sur tout. Voilà, c'est le genre de discours. Alors que s'il comprenait l'angéologie, que le spirituel commande, il dirait pas cela, mais ils savent pas. Et ils prétendent savoir, voyez-vous? Donc parfois, on pense, on prétend savoir, et on est ignorant des choses les plus élémentaires que la parole de Dieu nous enseigne. Il dit non. Il y a aussi d'autres êtres qui sont pas visibles, mais qui gouvernent sur vous, ou à cause du droit que vous lui laissez. Et donc si on retire ce droit, on peut être libéré et on peut vivre en Jésus-Christ. Obéir, avant tout, un enjeu spirituel. Apprenons à devenir obéissants à l'Écriture, même si nous ne comprenons pas tout. Je vais essayer dans les semaines qui viennent de vous faire comprendre certaines choses concernant la parole. Mais c'est pas parce que il faut pas attendre de le comprendre pour le mettre en pratique. Mais bon, ça aide, en particulier le ministère féminin, qui est beaucoup controversé. Il est du même ordre. La pensée machiste fait que il y a une certaine interprétation des choses, mais la pensée spirituelle est différente. Et je voudrais vous faire comprendre la pensée spirituelle à propos de la femme, à propos du ministère féminin. Et quand on comprend cela, ça éclaire et dire waouh, waouh, quelle sagesse, Seigneur, quelle merveille, qu'est-ce que tu as fait de si grand, de si beau. Et alors là, on rentre dans l'adoration et dans la reconnaissance à Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, qui est le fondement de toutes choses, le fondement de tous les univers, le fondement de l'ordre que tu as créé, le fondement, Seigneur, de toutes choses, nous dit ta parole. Et nous te remercions parce que nous pouvons être au bénéfice de cette parole qui est fondement pour nos vies, Seigneur. Et nous voulons que nos vies soient non pas appuyées sur du sable, sur des idées qu'on reçoit, qu'on emmagasine ou qu'on a reçues dans le passé. Seigneur, nous voulons faire table rase de tout ce qui vient de l'homme. Parce que tout ce qui vient de l'homme n'est pas quelque chose, Seigneur, qui peut conduire au salut. Si ce n'est qu'un salut illusoire qui nous conduit à la chute finale. Seigneur, mais nous voulons être au bénéfice de ta parole. Nous voulons être au bénéfice de ta vérité, au bénéfice de ton enseignement. Seigneur, aide-nous à ouvrir nos oreilles, à abandonner toutes les pratiques et les pensées qui nous ont été communiquées dans le passé. Et nous voulons, Seigneur, être libres pour pouvoir libérer cette région, cette nation. Libérer, Seigneur, notre entourage, parce que c'est ta parole qui libère. Seigneur, merci de nous aider dans les temps qui viennent pour cette Église, afin qu'elle soit lumière, un phare pour toute cette région. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a des anniversaires ?